Quay.
Ah, bonjour, il est de retour. Alexis, on va nous voir, t'es avec nous.
Ben oui, je suis là.
Re-bienvenue.
Je suis content d'être là.
Alexis, t'étais absent, mais parce que t'étais retenu par un bébé.
Ouais, retenu par un bébé, retenu par le travail. C'est ça, la vie est très, très, très remplie ces temps-ci pour moi.
Et le bébé, ça s'est bien passé?
Oui, le bébé est en pleine forme. Maintenant, il y a 3 semaines. C'est un petit tube digestif, le bébé qui, ces temps-ci, là, ça mange, puis ça ressort.
C'est agréable. Et juste une question des nouvelles, parce que la nouvelle est tellement récente. Ils viennent de créer le ministère du racisme. Là.
Mm-hmm.
Tu réagis comment à ça, toi?
Bon ben, on va donner une chance aux coureurs, là. J'imagine que M. Charest a eu le travail sûrement parce que les 2 ministres noirs qu'il y avait dans le cabinet la voulaient pas. C'est un peu les échos qu'on a au travers les branches, selon les analystes politiques. Maintenant, c'est sûr qu'idéalement, pour un tel poste, ça aurait été mieux d'avoir une personne racisée. On dit que M. Charest est sensible à la réalité des minorités culturelles. Sa femme est haïtienne, ses enfants sont métissés. Et l'ancien député à l'Assemblée nationale, maintenant député à la Chambre des communes, Emmanuel Dupour, me dit aussi qu'il parle créole. Donc, peut-être qu'on va voir, peut-être qu'il va agir. Tu sais, c'est... Dans le meilleur des mondes, on aurait un gouvernement qui reconnaîtrait le racisme systémique, qui ferait des avancées dans ce sens-là. Bon, ben, on va prendre qu'est-ce que ce ministre-là va être capable de livrer. On va attendre un peu.
On va juger sur les résultats.
C'est ça, on va le juger. Ministre Lafrenière, c'est déjà moins pire que l'ancienne ministre, donc peut-être que ça va être moins pire avec quelqu'un qui est titulaire d'un poste dans le genre.
Bon, allons-y. On a de beaux invités,
ben oui.
De belles invités aujourd'hui.
Mm-hmm.
La première que je te laisse présenter, c'est Geneviève Motard.
Oui.
C'est pas n'importe qui, là.
Professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Laval, où elle enseigne le droit constitutionnel sur les peuples autochtones aussi. Donc, le 9 février dernier, Mme Motard ainsi que Doris Farget ont écrit une lettre ouverte dans Le Devoir où on demande justement que le gouvernement mette en œuvre, le gouvernement du Québec, pour qu'il mette en œuvre la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones. On le sait qu'il y avait eu un projet de loi en ce sens au gouvernement fédéral, au Parlement fédéral de la part de Roméo Saganache. C'est mort au feuilleton. Le gouvernement libéral a promis de remettre en œuvre cette déclaration-là. On espère que ça va se faire rapidement. Et au Québec, on tergiverse beaucoup. N'est-ce pas, Mme Motard?
Oui, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
D'abord, félicitations pour la naissance.
Merci, merci.
Oui, donc c'est ça, effectivement, le gouvernement de la CAQ tergiverse sur cette question-là, comme vous l'avez bien dit. Il y a une inaction là qui à mon sens et au sens de Doris Farget, là, d'où la rédaction de la lettre qu'on a diffusée là, dans le Devoir, qui est injustifiable en fait compte tenu notamment là, des conclusions du rapport Vient hein, qui remonte déjà là, à plus d'un an. Aux événements tragiques qu'on a connus cet automne et bien d'autres, puis sans compter aussi le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation qui remonte déjà maintenant à plus de 6 ans. Bref, une inaction qui est à notre sens là, injustifiable.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le principal argument du gouvernement de M. Legault pour dire on ne veut pas accepter ou on ne veut pas mettre en œuvre cette déclaration-là?
Honnêtement, j'ai de la difficulté à bien mettre le doigt sur la raison fondamentale. C'est certain que la question de l'autodétermination mm-hmm. puis l'autonomie, c'est toujours un enjeu qui
fait peur,
oui, c'est ça, qui fait peur les gouvernements. Bon, évidemment, la question territoriale hein, est toujours au cœur là, des enjeux puis des difficultés puis des conflits qui rencontrent l'État et les Premières Nations, les Inuits. Puis bien entendu aussi là, en lien avec cette question des droits territoriaux, ben c'est la question du consentement préalable libre et éclairé.
Que le gouvernement caquiste associe à un droit de veto sur les projets d'exploitation naturelle.
C'est ça, exactement. Donc, le gouvernement utilise, puis le premier ministre Legault l'a utilisé aussi ce discours-là, hein, d'essentiellement réduire la norme ou le principe ou le droit au consentement préalable des trésoreries uniquement à un droit de veto, hein, alors que finalement, ce consentement préalable des éclairés, c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être, par exemple, la participation à des décisions, ça peut comprendre la consultation. Et bien entendu, ça comprend le droit de consentir aux projets finalement qui vont se faire là, sur les terres autochtones. Là. Mais de réduire ce droit-là à un droit de veto, là, ben, en fait, c'est réducteur, puis ça fait en sorte que finalement, on vient jeter. Le bébé avec l'eau du bain, là, excusez-moi l'expression. Là.
Ouais. En théorie de droit international, on nous dit souvent qu'on peut utiliser les traités internationaux ou les déclarations comme ça qui sont faites dont le gouvernement consent à titre interprétatif quand on a interprété une loi locale. Pensez-vous qu'on peut déjà, à titre de juriste, les juristes pourraient déjà utiliser quand même cette déclaration-là avec ce principe de droit international-là dans la mesure où on se dit que le Canada veut respecter ses ententes internationales?
Oui, effectivement, la déclaration actuellement, elle a un rôle qui est interprétatif. Hein. Ça veut dire essentiellement que un avocat qui décide d'argumenter dans, par exemple, ses plaidoiries, la déclaration, ben le juge, il va être en mesure de s'en servir pour interpréter le droit canadien. Et donc, il y a une capacité hein, déjà dans le système d'utiliser la déclaration pour faire avancer puis faire avancer donc les droits des peuples autochtones, mais aussi faire reculer donc toute la question de la discrimination qui est encore cours. Ceci dit, l'intérêt du projet actuellement à l'échelle fédérale, puis celui qui a été aussi adopté en Colombie-Britannique, la loi qui est adoptée de mise en œuvre, c'est justement de faire en sorte que le débat sur l'application ou l'applicabilité de la déclaration en droit interne soit derrière nous. Tu sais, qu'on arrête de se poser justement cette question-là. Ah, est-ce que la déclaration, elle s'applique? Est-ce qu'elle ne s'applique pas? En adoptant une loi de mise en œuvre, bien, ça vient fermer ce débat-là, puis ça oblige vraiment, disons, peut-être plus concrètement, le gouvernement à prendre des mesures, puis aussi à s'assurer que toutes les lois respectent la déclaration. Ceci dit, tu sais, le gouvernement puis le législateur pourrait très bien se passer de cette loi-là, mais la loi, c'est un mécanisme
qui peut être
supplémentaire
utile, ouais.
C'est un mécanisme supplémentaire pour forcer le gouvernement à agir puis s'assurer que toutes ses actions sont conformes aux droits inhérents des peuples autochtones là, notamment sont reconnus dans cette déclaration-là.
Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner concrètement? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour une nation au Québec si on appliquerait la Déclaration des droits des peuples autochtones?
Ben, par exemple, on peut penser à toute la question de la protection de la jeunesse, qui est un dossier très sensible, très important.
Oui, je travaille pour les Atikamekw, justement, avec leur...
C'est ça. Ben, ouais. Justement, ben, voyez-vous, la Déclaration... Son principe de base, hein, bon, évidemment, il y a le principe de non-discrimination, mais il y a aussi le principe d'autodétermination. Hein. Et donc, lorsqu'on réfléchit aux politiques publiques ou lorsque les nations réfléchissent hein, à organiser finalement ou à réorganiser ou à revitaliser leur tradition juridique autochtone, bien, la déclaration, elle vient en soutien. Hein, donc, elle affirme le droit des nations à s'autodéterminer, à se régir selon leur propre tradition juridique. Et donc, la déclaration, elle vient solidifier finalement cette capacité des nations à s'organiser, à prendre leurs propres décisions face aux décisions ou aux lois de l'État, par exemple.
OK. Puis est-ce que vous pensez que cette déclaration-là, si elle serait intégrée dans notre corpus législatif, un impact par rapport aux politiques des institutions non autochtones, un peu comme on l'a pu le voir en santé?
Ben oui, en fait, c'est ça l'intérêt. Ceci dit, comme dans tout, là, on n'est jamais à l'abri hein, de manquements face à la législation que le législateur adopte lui-même. Là. Pensez, par exemple, au conflit qu'il y a eu l'an passé là, avec la nation Wet'suwet'en. La loi en Colombie-Britannique qui mettait en œuvre la déclaration, elle était déjà adoptée à ce moment-là. Et ça n'a pas empêché qu'il y ait eu un conflit majeur sur un conflit territorial majeur. Là. Et donc, ces lois-là sont des mécanismes supplémentaires, mais ce n'est pas des panacées non plus. Là.
C'est sûr.
Ça résout, autrement dit, ça ne résout pas tous les problèmes d'un coup. Là. Mais ce sont des mécanismes supplémentaires qui donnent finalement des outils lorsque le gouvernement ne fait pas les choses comme il faut. Là.
À court terme, est-ce que vous pensez qu'on risque de voir politiquement un progrès au Québec à cet égard?
Ben, j'essaie toujours d'être optimiste, là. Mais je ne serais pas à court terme, mais j'essaie d'être optimiste.
Puis, dans l'éventualité où ça serait juste adopté au fédéral, est-ce que vous pensez que ça peut quand même avoir un certain impact au point de vue des normes provinciales?
Oui, c'est une très bonne question. T'sais, si on y va, vous savez, là, il y a un partage hein, du pouvoir entre le fédéral et les provinces.
Aux articles 91 et 92.
C'est ça. Hein? Ouais. Donc, le fédéral, lorsqu'il adopte ces lois-là, il peut avoir un impact important sur toutes les affaires qui concernent les peuples autochtones. Compte tenu qu'il y a la compétence
législative, oui.
Est-ce que les principaux embûches, c'est surtout de l'ordre des lois ou s'il y a d'autres choses socialement?
Ah, ben c'est sûr que socialement, il y a aussi des embûches. Là. On parle beaucoup de racisme systémique. Donc, dans les politiques publiques, il y a du racisme individuel, mais il y a du racisme systémique. Donc, c'est sûr qu'il y a des questions sociales plus profondes que la législation ou que l'action gouvernementale. Mais moi, je suis une juriste, là, fait que je m'intéresse au droit de l'État, particulièrement au droit québécois. Et donc, c'est dans ce sens-là que la lettre qu'on avait rédigée là, avait été faite, finalement.
Est-ce que ça a donné des résultats? La lettre avait eu des résultats intéressants? Des gens ont réagi?
Non, pas particulièrement. Là. J'espère qu'on va avoir des échos dans les politiques publiques, mais bon, ça reste une lettre, hein, donc on ne sait pas comment ça peut influencer ou pas l'action gouvernementale. Là. Mais on espère.
Bon, espérons que...
Ça va sensibiliser, du moins.
On va espérer que ce gouvernement-là de la CAQ, avec le nouveau ministre Lafrenière, ait une certaine ouverture. On sait qu'il est déjà plus actif que l'ancienne ministre qui était là en place. On va espérer quand même que M. Lafrenière puisse avoir cette ouverture-là face à la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones. Mais je trouve que c'est un peu comme le débat sur le racisme systémique. J'ai l'impression des fois que ce gouvernement-là essaye de confondre des concepts. Tu sais, quand on parle de racisme systématique au lieu pour confondre avec racisme systémique, là, on dit... On va créer des droits de veto quand jamais dans la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones, on dit que c'est à force de loi ou que c'est le but de donner des droits de veto aux peuples autochtones. Pensez-vous que c'est une confusion voulue, vous?
Ben, tu sais, j'essaie de pas...
de rester avec une certaine réserve.
J'essaie de pas prêter des intentions au gouvernement, mais bon, je suis aussi une citoyenne qui observe ça aller, puis... C'est sûr que ça, en tout cas, personnellement, ça alimente mon cynisme là, par rapport au gouvernement. Là. Mais bon, un peu comme vous disiez, on va laisser la chance aux coureurs, mais c'est sûr que du moment où on refuse de discuter de racisme systémique, alors qu'à l'évidence, c'est documenté, et la commission vient qui a déposé un rapport très important il y a un an où tout est très bien documenté.
Où on parle de discrimination systémique. Carrément,
ben oui,
ouais.
C'est ça, où on demande de mettre en œuvre la déclaration. Et là, un an plus tard, il n'y a à peu près rien qui a bougé. Puis en plus, on vient nier le racisme systémique. Donc, c'est sûr que c'est difficile de ne pas rester, de ne pas être...
De ne pas avoir un peu de cynisme par rapport à tout ça.
C'est ça.
Professeur Motard, je vous remercie beaucoup pour votre participation à l'émission. Ce fut très intéressant. J'espère qu'on va avoir la chance de pouvoir converser encore éventuellement.
C'est partagé. Un
au
grand
plaisir.
Miigwech.
Olioni en Abenaki. Merci.
Olioni. Au revoir. So far from home.
I can't leave now. I have to let it go. I have to get it out. I felt the wind. Yes, I heard him. I'll go where I wanna go. I'll be who I wanna be.
Alexis, belle nouvelle à Montréal, j'ai l'impression, parce qu'au Square Cabot, ou l'espace Cabot, là, selon, comme on veut la nommer, qui vient de décréter qu'il y aura un centre de jour pour permanent depuis la mort dont on se souvient. C'est intéressant pour vous?
Ben, je pense que c'est la moindre des choses, là. On n'en veut plus des morts comme ça dans des toilettes chimiques. On n'a pas entendu parler aussi de Mme Isaac la semaine suivante qui est morte d'une overdose dans la rue. On a vu dans certains médias un peu plus alternatifs comme Ricochet, mais dans les grands médias, on n'a pas parlé de ce décès-là non plus. Donc, la souffrance, elle se continue. Au moins, on a pu ne plus avoir le couvre-feu pour les personnes en situation d'itinérante. On a mis une petite tente pour aller réchauffer les personnes. Je pense qu'un centre comme ça, permanent, à l'endroit où les itinérants autochtones se réunissent, ça va être significatif. C'est salué par tout le monde, je pense, dans la communauté autochtone. Mais bon, encore là, il a fallu une mort, deux morts.
Mais toujours ça. Toujours ça.
Pour qu'on veuille avoir vraiment...
Les morts, ça déclenche des guerres, ça déclenche aussi des initiatives sociales et politiques.
Ouais.
C'est toujours la même chose partout. L'itinérance pour les gens de Première Nation à Montréal, il y a une amplitude importante. C'est important comme problème.
Oui, ben dans mesure où on forme quelque chose comme 1 ou 2% de la population, puis on est un très très haut taux d'itinérants à Montréal. Je me souviens plus c'est quoi les taux, mais je me souviens plus c'est la majorité, mais c'est vraiment significatif la population d'Autochtones qui est itinérante à Val-d'Or par rapport à notre à Montréal, excusez, parce qu'il y a aussi un problème d'itinérance à Val-d'Or
aussi,
d'où je viens, autochtone. Oui, c'est significatif et c'est significatif aussi de la société dans laquelle on vit. Si on n'a plus de place sur nos communautés pour vivre, si on est comme à Lac-Simon, il manque 300 maisons, il y a 350 maisons, il en manque 300, on aurait besoin du double de maisons. On nous tasse des territoires traditionnels pour pouvoir aller les exploiter. On devient des réfugiés dans notre propre pays. Et ces itinérants-là, c'est le bout, justement, d'une série de malheurs en général dans ces personnes-là.
Ça, c'est une explication, tu as bien raison, économique. Il y a aussi une explication psychologique. Il y a des problèmes. La différence culturelle peut être douloureuse à vivre dans un sens ou dans l'autre.
Ah oui, ben, il faut s'adapter. On intériorise souvent, en tant que personne racisée, les concepts racistes dont on fait l'objet. On appelle ça la fausse confiance, la fausse conscience dans les études féministes, où on vient apprendre l'idée du patriarcat, les idées patriarcales comme étant la vérité. Bon, ben, on vient avoir une certaine fausse conscience en tant qu'individu racisé, à voir justement les normes sociales qui sont blanches, à les intérioriser, puis à voir ce regard-là qu'on peut se porter sur nous autres-mêmes, à se dévaloriser, à sentir souvent comme pas à sa place, à sentir qu'on a c'est quelque chose de commun chez des personnes racisées qui viennent avoir certains niveaux de travail ou de sentir le syndrome de l'imposteur. Donc oui, il y a plusieurs obstacles. Puis quand on arrive avec ces personnes-là itinérantes, en plus, on vient tout rajouter l'intersectionnalité que les personnes pauvres peuvent vivre, de la discrimination qu'ils peuvent vivre. Donc moi, je pense que au-delà de ce centre-là de jour, il faudrait qu'on ait des politiques agressives.
Mais je pense que c'est un cercle vicieux aussi, parce que quand les Blancs voient l'itinérance chez les gens des Premières Nations, ils s'en servent aussi comme argument pour décrier les gens des Premières Nations. Faut le savoir.
Ah oh oui, faut le savoir. C'est qu'est-ce que j'ai vu et vécu à Val-d'Or. À un moment donné, j'allais au gym, puis je rencontrais un policier qui me disait ça. Ah ouais, t'es autochtone, tu viens t'entraîner, tatati, tatata.
T'entraînais la violence.
Non, mais lui, il concevait pas ça qu'un autochtone puisse aller au gym, puisse avoir des bons travails. Lui, parce que lui, en tant que policier, qu'est-ce qu'il voit tout le temps? C'est la misère des gens. Fait qu'il s'était fait une idée que toutes les Anishinaabés, tous les Algonquins étaient comme ça.
Quand tu vois ces gens-là sur la route, tu vois tes co-religionnaires dans les Premières Nations.
Ouais, les co-citoyens, ouais.
Ça te touche personnellement?
Ah, c'est sûr. Encore tantôt, je suis venu, j'ai donné un peu d'argent à des membres des Premières Nations qui faisaient la manche. Je me dis que je suis privilégié, puis que dans ce monde-là dans lequel on vit, avec toutes les richesses qu'on a prises sur nos territoires, ça serait bien la moindre des choses qu'on ait une petite place pour vivre, un petit toit.
Tingani takugama irkai la khivunga ungane twagane nalenere lartaine sorose une venerane isuma vapunga kingoe batunga inisaine lartaine bitaire tora vera si ula. Sous-titrage Société Radio-Canada.
sema lekonga ino se khaler sunga angoteo lekonga yuina nea konga atsona tunega lama kamatsiava bunga tahana sigaloa pakayusinea bunga bitairo toa ravela si ula Caillou si bon à et trauma d'inera qui est sous ma yapona. Allénera tu es amour, caillou si bon à ta taga. Isumaya le toarama bisu va bunga.
C'était Twin Flames, un duo, un couple de la région d'Ottawa.
On revient dans quelques minutes avec Véronique Picard.
Écoutez Koué Bonjour avec Alexis Wawanalwat et Robert Blondin.
Bonjour tout le monde, bonne fin de semaine. Aujourd'hui, on va traiter du phénomène qui s'appelle l'adoption coutumière. C'est une pratique dans les communautés autochtones qui fait partie d'une tradition millénaire. Parfois, il y avait des échanges volontaires qui étaient faits annuellement entre les familles qui se rencontraient une fois par année. Et pour éviter éventuellement qu'il y ait de la congénitalité, qu'il y ait trop de cousins et cousines qui fassent des enfants ensemble, les gens échangeaient parfois des enfants à des rencontres annuelles entre deux chasses, disons. Ça, c'était surtout chez ceux de mœurs et coutumes algonquiennes, donc qui se voyaient quelques fois par année en se croisant dans des voyages de chasse. Mais il y avait ça pas mal dans toutes les nations. On a vu ça aussi chez les Mohawks également. Entre autres, c'est un phénomène super intéressant. Il y a une femme noire originaire des États-Unis qui a été adoptée par un chef à Kanawake. À son mariage, on n'a pas son baptême malheureusement, mais elle est mariée le 6 février 1643. Son nom que les curés lui avaient donné, c'était Angélique, mais elle avait aussi le nom de Marie-Agnès Thompson. Ça, c'était son nom originaire des États-Unis, probablement de son à l'époque où elle était sous les services de l'esclavage et tout ça. Elle s'est mariée à Kanawake avec un homme d'origine européenne. Et puis les deux ont été intégrés à la bande de Kanawake. Donc la femme noire et son mari européen, leurs enfants et eux étaient tous considérés comme des Mohawks. Elle-même, elle avait été adoptée par un chef Mohawk. La mention est faite au mariage, mais malheureusement, on n'a pas son baptême. Parfois, il y a des actes manquants. Alors, ce qui est très intéressant, dans l'acte de mariage, ça dit que le 23, ça c'était à son décès, le 23 janvier 1900, le corps de Mary Thompson, alias Marie-Agnès Kania Tarotienta, veuve de Louis Lefort de cette mission décédée l'année dernière. Donc, elle avait un nom Mohawk et à son mariage et à son décès. Toutefois, qu'est-ce qui est arrivé à dans ces secteurs-là à Kanawake? Il y a éventuellement eu les agents des Indiens de l'époque qui géraient la réserve de Kanawake avaient marié des Autochtones pour obtenir plus de terres qui s'échangeaient dans la famille d'Européens du ministère des Affaires indiennes. Ils commençaient à avoir des bévues et des abus dans ça. Donc, à Kanawake, ils ont expulsé finalement certaines familles. Puis c'est là que certaines expulsions ont commencé dû aux abus de certains agents du ministère qui faisaient profiter à leur famille pour des achats de terres. Alors, donc, ça, c'était un cas. Puis, qu'est-ce qui est très intéressant avec cette dame noire-là, c'est qu'une grande, quand même un bon pourcentage des gens des Kanawake sont éventuellement descendants de ce couple-là. Donc, c'est étant donné qu'on n'est pas des très grandes populations, éventuellement, on est tous quasi-cousins ou petits-cousins. L'adoption coutumière, elle est entrée aussi dans les mœurs, c'est-à-dire ça a été reconnu par le Code civil du Québec en 2018. Étant donné que c'est une coutume traditionnelle ancestrale chez les Autochtones, c'est moins complexe de faire adopter son enfant par une tante, une nièce ou quelqu'un de la famille assez proche ou des amis de proximité. Donc, le Code civil du Québec a ouvert une clémence à cet effet-là. Toutefois, c'est quand même limité parce que dans les adoptions coutumières, il y avait parfois même des Algonquins qui étaient adoptés par des Mohawks et vice-versa. Donc, le Code civil, pour l'instant, applique pour les gens de la famille immédiate ou des proches de la famille immédiate à même la même nation. Donc, c'est peut-être la petite lacune qu'il y a pour l'instant, mais éventuellement, ça va sans doute se développer. Mais on peut voir que c'est une tradition vraiment lointaine, depuis toujours, chez les Autochtones, de faire ça, l'adoption coutumière. Et puis, entre autres, il y a quelques exemples que j'ai retracés dans les registres paroissiaux. Il y a même un homme noir, un enfant noir qui a été adopté par un chef à Kanawake. Donc, tant les Noirs pouvaient être adoptés que d'autres Autochtones. Donc, c'était vraiment une ouverture complète des gens quant à l'adoption et tout ça. Il y en a un à Kwatsassiné vers environ 1760 qui s'est fait adopter. C'était d'une mère Abénaki et d'un père descendant d'esclaves noirs qui est devenu le chef de Kwatsassiné. Il s'appelait Joseph Cook. Et puis, Joseph-Louis Cook, c'est-à-dire. Alors, donc, lui, il est décédé durant la guerre de 1812, et puis il avait réussi finalement à agglomérer une partie de Mohawk. Au début, il avait tenté de mettre de côté la guerre de 1812 pour pas que le côté Mohawk du Canada et des États-Unis soit en guerre. Mais finalement, John Cook, il s'est joint avec la milice américaine. Et puis, il est décédé durant la guerre de 1812 en 1814. On a aussi, on en a quelques autres. On en a quand même beaucoup qu'on peut retrouver dans les registres paroissiaux. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment une coutume ancestrale depuis toujours. jusqu'à quand même assez récemment, parce que j'ai connu une femme Innu du Labrador qui partait à la chasse dans les années, entre les années 30 et 40, et puis qu'elle a légué son enfant à sa sœur, parce qu'elle continuait de faire la chasse au caribou avec son mari. Donc, elle a accouché en chemin, puis elle a donné l'enfant à sa sœur. Elle a dit comme ça, « Prends-la », elle a dit « Moi, je continue la chasse ». Alors, c'était des coutumes qui étaient vraiment mises en pratique là, comme ça, souvent dans la famille immédiate, mais aussi parfois pour éviter la congénitalité, comme je disais, des réunions intertribales où des enfants étaient échangés. C'était un échange diplomatique. Et puis, ça évitait des problématiques de santé, éventuellement la congénitalité. C'est un phénomène intertribal, parfois dans la même tribu. Parfois, ils étaient capturés, mais parfois, c'était des échanges volontaires pour éviter ces congénitalités-là et puis pour ouvrir des relations diplomatiques. Donc, voilà, c'était un point très intéressant des mœurs et coutumes autochtones, internation au Québec et puis dans tout le Canada, puis probablement même jusque dans l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Donc, c'est un très, très vaste phénomène qui a probablement éventuellement même touché toute l'humanité dans nos mœurs et coutumes tribales. Passez une bonne semaine et puis on se revoit à la prochaine chronique.
Tacos, sœur,
Et une invitée que j'avais hâte de rencontrer aujourd'hui qui s'appelle Véronique Picard. Vous êtes là?
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Quoi?
C'est extrêmement intéressant de ce que vous faites à partir des réseaux sociaux pour se servir des réseaux sociaux, pas uniquement pour se faire des abonnés et se faire une notoriété, mais pour faire une action et stimuler une action sociale. C'est ça que vous faites, hein?
En effet, moi, je suis journaliste à Radio-Canada. Il y a vraiment une montée en popularité, oui, des Autochtones sur TikTok. C'est une belle plateforme pour qu'il y ait plus de culture qui soit présentée. Puis ça aide vraiment tous les Canadiens à mieux comprendre la réalité d'aujourd'hui en 2021. C'est quoi les réalités des communautés autochtones au Canada?
TikTok, ça appartient... C'est Radio-Canada qui a mis ça sur pied?
Non. En fait, TikTok, c'est un réseau social qui est équivalent à Facebook, je dirais.
Ah, complètement à part.
Un peu comme Instagram. Ça a été inventé en Chine. Ça a été inventé pour faire des danses.
Mais vous vous en servez comme journaliste aussi pour avoir de l'information et en distribuer également.
Non, pas tout à fait.
Vous avez fait un reportage sur le sujet où vous avez quelques personnages comme Shaina Novalinga, qui est une Ininuk.
Oui, Shaina Nova, qui est une Ininuk du Nunavik, qui fait des chants de gorge avec sa mère. Le chant de gorge, qui est un chant traditionnel inuit, et que longtemps, les communautés inuites ont été obligées de ne plus le chanter. En fait, il n'y avait plus le droit de le chanter. Donc, ce réseau social permet à Shaina et à sa mère de vraiment recommencer à faire valoir ce chant-là dont ils sont si fiers. Puis il y a vraiment une belle réponse du public canadien, honnêtement.
Ce qu'elle fait avec sa mère, c'est un succès très, très, très grand sur Internet, là.
Oui, en effet. Shaina Nova, qui a 1,2 million d'abonnés sur TikTok, même que je pense qu'elle en a plus maintenant, peut-être 1,5 million. Il y a aussi James Jones, qui est un cri de l'Alberta. Puis lui, il est rendu à 2,quelques millions d'abonnés. Donc, ça va chercher du monde, des gens d'un peu partout dans le monde, au Canada. Puis, ça leur permet aussi d'être une communauté très soudée entre influenceurs Shaina Nova puis James Jones, qui ont fait des vidéos ensemble, qui se sont rejoints, même si l'une habite au Québec, l'autre en Alberta. Ça crée vraiment une belle communauté de gens qui sont sur TikTok. Puis il y a un beau soutien qu'on voit entre eux. Et ils mélangent aussi beaucoup la modernité avec les traditions autochtones. Donc c'est vraiment c'est un beau médium.
Ça ne rejoint pas uniquement les Premières Nations, ça rejoint aussi les Blancs qui sont intéressés de plus en plus par ces cultures.
En effet, oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à en connaître davantage. Puis, c'est vraiment des vidéos qui sont courtes. Donc, ça peut durer 15 secondes à une minute. Puis, eux veulent vraiment en faire connaître davantage sur la culture en peu de temps. Donc, c'est vraiment un super bon moyen pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps de connaître un petit bout par petit bout des parties de culture. Ça intéresse beaucoup les Québécois, les Canadiens, les gens partout dans le monde, les danses de cerceau comme James Jones fait, mais aussi, ils vont vraiment aller avec humour dans tout ce qui est un peu plus politique, des débats de société qui a trait aux Autochtones, puis que peut-être qu'habituellement, les Canadiens, les Québécois, on n'entendait pas parler ou n'étaient pas intéressés à en entendre parler. Mais là, c'est une belle façon, par le divertissement, par l'humour, de s'intéresser à des enjeux qui sont peut-être un petit peu plus sérieux.
Avant, chez les Blancs, on regardait ces phénomènes culturels, un peu comme des curiosités. Maintenant, on s'y intéresse comme un apport culturel important, là.
Oui, c'est ça, exactement. Ça devient un apport culturel au Canada. Bien entendu, le Canada est très, très diversifié de par les Autochtones et aussi les différentes minorités ethniques qu'il y a au Canada. Donc, avec les réseaux sociaux, de plus en plus, on peut voir des gens qui n'avaient peut-être pas la chance habituellement de se faire voir ou de se faire connaître, montrer un peu plus leur couleur.
Véronique Picard, vous êtes Huronne Wendat. Ces initiatives servent aussi à créer des ponts entre les Premières Nations.
En effet, oui. Ça participe à créer des ponts entre les Premières Nations parce que il y a 336 communautés autochtones au Canada environ. Donc, c'est pas toutes les communautés qui se connaissent bien entendu. Ça participe en effet à ce que la jeunesse se connaisse mieux. Aussi à ce qu'il y ait un bel échange entre les différentes cultures. James Jones, par exemple, il me disait que lui, il a pas eu la chance de connaître vraiment sa culture en grandissant. Il a fait différentes rencontres dans sa vie qui lui ont permis d'en connaître davantage sur sa culture. Puis maintenant, il est vraiment content par le biais de TikTok de pouvoir rejoindre des Autochtones d'un peu partout au Canada pour qu'il y ait vraiment un échange entre les cultures, puis que des jeunes qui habituellement n'auraient pas eu la chance de se faire enseigner les traditions ou simplement se faire enseigner un peu plus d'où ils viennent, bien, ça permet à James Jones de rejoindre ces gens-là puis de dire, même si tu n'as pas eu cette chance-là, voici un beau moyen de la découvrir, ta culture, et d'en être fière, finalement.
Véronique, c'est tellement beau. Racontez-moi l'histoire de la levée de fonds.
Oui, il y a beaucoup de ces influenceurs qui sont sur TikTok qui utilisent leur plateforme pas pour faire de l'argent eux-mêmes, mais pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Par exemple, Shina Nova, qui a fait une levée de fonds avant les fêtes. Puis elle a ramassé quand même 11 000 $. Puis elle a utilisé cet argent-là pour faire des petits cadeaux pour les femmes autochtones qui sont dans des foyers d'accueil à Montréal. Donc, elle a fait des beaux sacs où elle a acheté des articles de mode traditionnels autochtones, des petits bijoux perlés et aussi des soins plus de base. Puis elle a fait des beaux petits sacs cadeaux pour toutes ces femmes-là, puis elle est allée leur porter demain propre à ces 100 femmes-là. Donc, c'est un beau moyen de...
Ça, c'est de passer du langage échangé par Internet à quelque chose de très concret là, qui se retrouve sur le terrain. C'est ça qui est intéressant.
Mm. Exactement. Puis on parle aussi qu'elle et sa mère vont produire un disque bientôt. Ça serait sûrement pas arrivé sans cette aventure TikTok-là.
Non, c'est sûr. C'est sûr que ça serait pas arrivé. Elle était super contente de m'annoncer ça parce que ils reçoivent beaucoup, beaucoup de beaux commentaires maintenant, puis ils disent que ça aide beaucoup de personnes aussi d'entendre ces chants qui sont très, très doux. Ils sont super contents que ça va sortir dans les prochaines semaines, prochains mois. Ils travaillent très, très fort là-dessus.
Est-ce que d'autres initiatives dont vous pourriez nous parler, dont on peut être content hein, que ça se passe comme ça?
Vous parlez sur les réseaux sociaux?
Oui, en général, pour les Premières Nations.
Oh mon Dieu, mais il y en a plein. Il y a plein de belles initiatives. Vous pouvez vous informer peut-être sur...
Mais ce que je veux savoir, c'est ce que vous préférez. Qu'est-ce qui vient vous chercher?
Qu'est-ce qui vient me chercher?
Ouais.
Votre influenceur préféré sur TikTok, à vous.
Je pense que ça serait James Jones parce que c'est le fun de pouvoir s'informer sur des enjeux et d'en rire. Dans les derniers temps, il y a eu beaucoup on a beaucoup pris parole pour différents enjeux, puis j'ai l'impression que les Autochtones, eux, on va pas généraliser, là, on n'est pas tous pareils, mais en général, on a tous de l'humour, du moins. On aime ça rire. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir un peu de tout ça, c'est que ça permet de parler de des choses qui sont parfois difficiles, mais sans en faire un gros cas qui devient...
L'humour nous a sauvés du génocide, ça leur plaît beaucoup. Donc, vous me recommandez d'aller sur TikTok, d'aller me faire un profil TikTok, puis d'y aller. Je suivais Madame Sheena sur Instagram. Je devrais peut-être me mettre à TikTok aussi maintenant.
Je pense que ça peut être bon. Oui,
il y en a de plus en plus. Bon, ben on se retrouve tous sur TikTok. Merci, TikTok. Véronique.
Merci.
Picard.
Au revoir. Allez, Annie.
Merci. Bye.
Bomde janu demunjant, mën gjithë që guan në wapten, mën gjithë që guan në beden, në mënuaden e watman, e ka e begus jan, wani gan e jan, mën gjithë që guan në mëshkaden den, ish pëshu de pjan që shkwe munjan, tan de majt që pa që shtagwen, që qinë që shkukwen, mak pëshkabit man, e mëshkëdun mat, ta wejën në munan, hei, Erzähl das utile, qui a-t-il dans ses villes? Une ouverture d'esprit et le rêve d'une meilleure vie. Pour certains c'est chill, pour d'autres c'est plus difficile. Mais malgré les soucis, l'espoir nous sourit. L'espoir d'un meilleur avenir, l'espoir de nous voir grandir.
Float together on an island, your land and my land. This land was made for you and me, paid for, stolen and lied for, laughed at and cried for. Hey, look what we died for. An island in a dream, a mountain on a river, a meeting point, a safe place, I land and deliver. We went from trappers to rappers, from logging to blogging, triumphant disasters. Hey, what's the story of this mountain on an island, surrounded by a river, just a little taste of dry land? Your land, my land, why don't we share land? Couldn't care land, a bear land, beavers in a hair land. You gotta listen to hear it, you just don't understand, and maybe that's why you fear it. Birds of a feather make your Makusham tremble. All in this together and we'll make your ensemble. Makusham Montréal.
Alexis Wawanonowat, Louis Garon, Claire Guérin, Maurice Bolduc, ici Robert Blondin. Oui, bonjour. On se retrouve la semaine prochaine,
ben
Alexis.
Oui, je l'espère, moi aussi. Au plaisir. Au plaisir.